Polysécure, épisode plus grand public. Je suis accompagné de Laurent.
Bonjour.
Ça va bien?
Bien, merci.
Oui. Aujourd'hui, on continue encore le passer à travers ton livre, qui est très intéressant. À cette façon, on est au chapitre 6, c'est-à-dire les lois, droits et devoirs. Justement, on va aborder un volet un peu plus légal, qui est quand même important maintenant, parce que les lois ont pris beaucoup d'importance dans le cadre numérique, qui a des influences sur nos droits face aux institutions, face aux entreprises, et en même temps, face à nos pairs. Fait qu'on peut pas faire n'importe quoi. On ne peut plus faire n'importe quoi comme on peut le faire à une certaine époque. Donc, les choses sont un peu plus cadrées. C'est plus français comme approche, naturellement, parce que c'est dans un univers légal plus français. Je vais mettre quelques petites nuances, peut-être aux québécoises, mais comme je suis pas un avocat moi-même, prenez avec un grain de sel ce que je dis, je me base sur ma connaissance et non le fait que je suis autorisé à parler de droit plus que ça. Donc, on va commencer un peu sur le volet plus légal, d'où ça part et pourquoi on parle de ça, parce que le RGPD était un élément très structurant en Europe. Et l'équivalent maintenant au Québec et bientôt au Canada, la loi 25 et C27 qui vont venir apporter des structures qui sont inspirées du RGPD, fait qu'on sera pas très distant de ces choses-là. Mais je vais essayer de commencer un peu à expliquer les effets du RGPD sur la vie privée, sur nous comme citoyens, puis qu'est-ce que ça nous donne.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le RGPD n'est pas sorti nulle part. Il y a une culture de la protection des données dans le domaine juridique qui est vraiment spécifique à l'Europe et qui date des années 50, avec cette consécration du droit à la vie privée. À l'échelle nationale, il y a déjà plusieurs États qui ont sorti des lois, notamment le Landtag de Hesse, 1970, la première législation en matière de protection des données. Beaucoup d'autres pays ont suivi, notamment les pays du Nord, mais la France avait déjà un petit temps de retard. Elle a voulu faire l'inverse. En 1974, a éclaté le scandale du projet Safari, qui devait réunir toutes les données administratives des citoyens français. Un scandale qui a explosé dans le journal Le Monde, suite à une source du ministère de l'Intérieur, il me semble. Donc forcément, le gouvernement a dû faire volte-face et a créé une commission informatique et liberté pour regarder ce qui pouvait être fait à l'inverse, à contre-courant de ce qui était prévu initialement. Et donc le rapport Tricot sorti en 1975 a proposé une législation qui est la loi informatique et liberté, reconnue sous son nom en France, ainsi que la création de la commission de la CNIL. Aujourd'hui, la CNIL, grâce au RGPD, a justement plus de pouvoir, un pouvoir d'enquête, un pouvoir aussi de sanction. Néanmoins, le RGPD qui date de 2016 avec une applicabilité totale en 2018 est plus ou moins issu de tout ceci, mais aussi de ce qui a pu se passer aux États-Unis dans les années 2010. Donc, on a le scandale de Medbase 200. En 2012, où un agent du gouvernement a trouvé en vente en fait des listes de noms de personnes qui avaient été victimes de viol, qui avaient des problèmes d'alcoolisme, des troubles érectiles, bref, ce genre de choses bien sympathiques. Elle en a été assez choquée pour faire remonter les data brokers sont apparus sur le devant de la scène. Personne ne connaissait ces entreprises-là, dont le fonds de commerce en fait est la donnée personnelle. Elles ont été auditionnées, notamment par le sénateur Rockefeller, à l'époque, qui les a qualifiées de pires que le programme de surveillance de la NSA. Justement, à peu près au même moment, éclatait le scandale Snowden, où le monde découvrait à quel point les États-Unis avaient mis en place un système de surveillance extrêmement large, extrêmement puissant. Et bien évidemment, en Europe, on n'a pas trop apprécié le fait de se faire espionner jusqu'à ce point par son allié. C'est ce qui a en vérité donné un véritable coup de fouet au RGPD qui était déjà dans les tuyaux. Néanmoins, à la base, personne n'en voulait de ce RGPD, qui est venu remplacer une directive qui datait de 95. Une directive, bien sûr, ça peut être transposée dans la législation nationale. Un règlement, lui, est applicable directement. Donc, il y avait jusqu'à 4000 amendements sur le RGPD qui montrent bien que vraiment personne ne voulait le voir aboutir jusqu'à ces deux scandales successifs, surtout la bombe de Snowden, bien entendu. Et on a rapidement, finalement, eu un RGPD qui a modifié les pratiques, avec des changements plutôt profonds, notamment dans le principe de la responsabilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont vraiment tous les organismes qui doivent être responsables des données qu'ils traitent, dans le sens où ils sont contraints à une conformité qui est permanente, et ils doivent pouvoir le démontrer. On n'a plus à déclarer les traitements que l'on fait à la CNIL, mais de s'assurer en continu que l'on est conforme en matière de base légale, de traitement, de consentement des personnes, de sécurité numérique. Ça aussi, c'est extrêmement important. Et surtout, la question des droits. Les personnes ont des droits, et ça, c'était vraiment fondamental dans ce RGPD, c'était de rendre la possibilité aux personnes de maîtriser véritablement leurs données. Alors, en France, il ne faut pas non plus se leurrer, la loi informatique et liberté avait déjà 80% des tenants et aboutissants du RGPD. Le RGPD est venu uniformiser à l'échelle de l'Europe des pratiques qui aujourd'hui nous paraissent nécessaires, alors que à l'époque, même si ce n'était pas si vieux que ça, ça paraissait encore un peu lointain, compliqué. Quoique aujourd'hui, il faut quand même faire attention, on a 80% des organismes qui ne sont pas conformes. Sur Internet, surfer sur un site, c'est assez difficile de trouver véritablement un site qui propose aussi bien le refus des cookies que son acceptation de manière équivalente. Toujours cette petite mention « refuser les cookies en tout petit, de manière invisible ». Alors que accepter tous les cookies paraît très agréable avec cette petite case verte sur laquelle on clique très facilement pour aller plus vite sans avoir véritablement conscience en fait des enjeux derrière. Le RGPD est venu véritablement structurer les droits des personnes, la sécurité numérique aussi, et fluidifier les échanges, transferts de données plutôt au sein de l'Union européenne et de l'espace économique européen.
Tout ça est très intéressant et c'est effectivement très structurant comme approche parce que ça vient établir justement un certain nombre d'éléments dont le fait qui détient quoi et qui est responsable de quoi. Et dans le fond, le RGPD vient justement cadrer le responsable de l'information. Fait que est-ce que tu peux justement guider un peu comment on peut trouver cette personne-là? Parce que des fois, on a besoin de lui adresser des questions.
Le responsable de traitement, comme tu dis, le responsable de l'information, c'est la personne à qui incombe effectivement la responsabilité donc de la sécurité de la donnée et de tous les droits qui l'entourent. C'est-à-dire que c'est le responsable de traitement, c'est souvent soit le dirigeant d'une entreprise, qu'il soit d'une entreprise, le responsable, désolé. Je galère à répondre à ça. C'est trouver le responsable de traitement, c'est simplement le responsable du site ou de l'entreprise qui traite les données, le responsable légal.
Puis normalement, c'est ça, effectivement. Et puis, je pense qu'ils doivent s'annoncer aussi là, en termes d'existence. De là aussi, c'est important parce que le RGPD vient réaffirmer ces éléments-là. Parce que à qui appartiennent les données qu'on propose dans l'univers comme ça?
Effectivement, le responsable de traitement est légalement affiché, indiqué sur tout site, sur toutes les mentions légales qui apparaissent lorsqu'on se donne la peine, en vérité, de les regarder. Puisque la responsabilité des données incombe, certes, à l'entreprise ou à l'organisme qui les traite, mais aussi à la personne, finalement, qui les diffuse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se déclarer complètement irresponsable lorsque on tombe dans le piège d'un phishing, par exemple, sur un SMS qui viendrait de notre banque et qui nous demande toutes les informations, dont nos codes secrets. Le principe d'un code secret, c'est qu'il reste secret, même pour la banque. Donc, il s'agit d'avoir du bon sens, finalement, et de comprendre que l'on est responsable des données que l'on diffuse. On n'est pas complètement responsable, bien évidemment, de la sécurité des données là où elles doivent aller, puisqu'on ne peut pas non plus vivre complètement en marge de la société au point qu'aucune donnée ne circule sur soi. En Occident, c'est quasiment impossible. Néanmoins, cette responsabilité, elle nous appartient. Tout comme on traverse sur un passage piéton quand le petit bonhomme est vert et qu'on est responsable en partie, bien sûr, d'un accident si on traverse au rouge.
Effectivement, puis c'est important cette notion-là justement de ça, parce que dans le fond, effectivement, les compagnies ne sont que des fiduciaires de nos informations dans lesquelles on demeure dans l'absolu propriétaire, mais que si on diffuse à tout venant, bien, on vient diluer la valeur et la qualité de la protection légale qui est associée à ce genre de choses-là. C'est très intéressant parce que, puis j'ai basculé, puis je ne suivrai pas nécessairement l'ordre du livre, parce que quand on diffuse, il y a un risque associé à ce genre de choses-là. Il y a des risques légaux, c'est que nous, on peut s'exposer comme individu effectivement à se faire poursuivre parce qu'on diffuse des informations qui ne nous appartiennent pas. On peut se retrouver dans cette zone-là. Et l'autre aspect, puis c'est très intéressant, parce qu'il est vraiment basé sur le congédiement, parce que ça fait du bruit public. Dès qu'on diffuse et qu'il y a une volonté de diffusion d'informations, on perd beaucoup de la protection qui nous est donnée, qui est par le RGPD, entre autres.
Tout à fait. Déjà, il faut retenir que nous ne sommes pas propriétaires de nos données. Par contre, le RGPD vient consacrer la maîtrise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander gentiment aux impôts de ne pas traiter nos données personnelles. J'ai essayé, ça ne marche pas. Néanmoins, eux doivent répondre à leurs obligations de sécurité, de confidentialité, etc. Et nous, on a des droits d'accès, de rectification, de suppression dans certains cas, bien sûr, pas dans tous. Le RGPD, nous sommes effectivement responsables de la sécurité de nos données dans le sens, par contre, où on en réduit la diffusion. À force de publier à tort et à travers sur des plateformes publiques certaines données qui parfois peuvent être sensibles aussi, où on en devine justement des données sensibles, on réduit le pourcentage de sécurité quasiment à néant. C'est-à-dire que là, on ne maîtrise plus qui récupère ces données-là, puisque vous avez quand même des logiciels qui ratissent complètement le web à la recherche de ce type de données, et savoir où elles sont parties devient absolument impossible. Il faudrait envoyer des demandes d'exercice de droit à l'intégralité à des entreprises qui traitent des données personnelles dans le monde, ce qui est absolument inenvisageable en soi. Donc, la responsabilité des personnes, elle est lourde sur la question, et ça doit faire l'objet quand même d'une formation, de sensibilisation qui doit démarrer extrêmement tôt. On a un droit de suppression de données qui est automatique quand on est mineur, pour toutes les données qui concernent un mineur. Néanmoins, lorsque l'on est majeur, cette responsabilité, cette possibilité, en fait, d'effacer des données, elle reste réduite à la manière dont on les a publiées et au droit d'information aussi des personnes. Par exemple, si des articles de presse sur une personne sont diffusés et que cette personne, quelques années plus tard, souhaite les faire supprimer pour différentes raisons, non seulement elle va devoir se justifier pour cette suppression-là, mais en plus, celle-ci n'est pas automatique. C'est-à-dire que l'organisme de presse peut faire valoir le droit à l'information du reste de la population, et refuser cette suppression. Donc, il faut tout de même faire extrêmement attention à ce que l'on diffuse, à qui on diffuse, et surtout prendre conscience de la portée que ça peut avoir et qui peut être en vérité éternelle.
Oui, c'est un des problèmes sur Internet. Puis d'ailleurs, le droit à l'oubli est très intéressant et effectivement pas absolu. Ça dépend même des législations dans lesquelles on est. Le RGPD couvre un certain élément. Au Canada, c'est d'autres éléments qui sont couverts, puis c'est pas exactement les mêmes protections qui sont offertes. Tu veux vraiment y aller. Puis c'est justement, faut éviter aussi, puis ça, c'est l'autre aspect intéressant, c'est que faut pas être comme le petit pousset puis mettre tous nos objets partout. Parce qu'ensuite, ça va être très difficile, contrairement au petit pousset, de retrouver notre chemin numérique de toutes les traces qu'on a laissées. Et il y a un effort réel et très important à les retrouver parce que ce qu'on a fait il y a 15 ans n'est peut-être pas aussi mature que ce qu'on fait, mais on peut faire maintenant. Donc, tous ces éléments-là qu'il faut retracer en sens inverse, toutes nos traces, justement, si on veut les demander, les faire effacer, ou si on veut nous-mêmes effacer nos données, puisque des fois, à la plupart des cas, nous avons la capacité d'effacer nos traces. Et justement, c'est important d'effacer ces traces-là un peu parce que ça laisse des stigmates très importants. Puis il y a des personnes qui ont goûté sévèrement. Même s'il y a protection légale, il y a eu quelques cas en France, il y a eu quelques cas au Canada aussi d'ailleurs, de gens qui ont été très malmenés. Même s'ils ont eu gain de cause en cours dans la justice, les dommages moraux qui ont été causés sont probablement éternels pour ces personnes-là.
Oui, il y a différents paramètres à prendre en compte. C'est-à-dire que déjà, il faut retenir que quand on publie une information sur Internet, elle ne disparaît jamais, absolument jamais. On a aussi le cas très délicat du revenge porn, par exemple. C'est-à-dire que bien souvent, c'est pas la majorité des cas, mais bien souvent, c'est une jeune femme qui se sépare de son conjoint et l'ex se met à publier des photos qu'il a prises de la jeune femme avec ou sans son consentement, à tort et à travers. Une fois que ces images font l'objet de captures d'écran, sont enregistrées sur des centaines de supports privés, on ne peut plus les supprimer, même lorsque la législation, lorsqu'il y a une décision de justice qui ordonne la suppression de ces images. On n'en a plus le contrôle. Donc, ces choses qui ne disparaissent jamais, elles doivent véritablement marquer, je dirais, comme une forme d'expérience, les jeunes actuellement, pour se dire que non, ça ne disparaît pas, et même 15 ans plus tard, on peut retrouver des données qui pourraient être extrêmement sensibles, qui auraient pu être interdites de diffusion. Néanmoins, il y a une forme de perte de contrôle de ces données qui est fulgurante sur Internet. Du moment où on ne peut pas faire confiance à 5 milliards d'utilisateurs, on ne publie pas n'importe quoi.
Ouais, c'est très important. Puis la petite nuance aussi que je vais apporter, c'est qu'au niveau du droit français, tout est codifié. Fait que toutes ces règles-là que tu mentionnes sont effectivement codifiées de façon assez claire. Au Canada, c'est différent. On est plus sur du common law, sur ce genre de règles-là. Oui, il y a des lois qui viennent attribuer, mais généralement, le common law vient aussi dicter toute la jurisprudence. On est en train de se diriger vers des équivalents comme ça, qui vont donner de plus en plus de pouvoir aux gens de pouvoir faire détruire, se faire désindexer. Mais il demeure que quand on fait partie de gens, comme tu parles de revenge porn, par exemple, une fois que c'est parti, bien, on en a perdu le contrôle éternellement. Donc, ça, c'est faux. Et vraiment, y penser que quand on échange des informations, soit d'apparence privée ou qu'on utilise un service plus public comme Facebook, il y a toujours une chance que ça devienne éternel, que les gens recapturent et rediffusent nos informations. Même si on a capacité de légale, le dommage moral pour nous ou émotif demeure permanent. Puis justement, je vais basculer un autre élément qui est quand même important puis que faut parler parce que je suis un peu dans le désordre par rapport à comment tu as organisé ton chapitre. Le volet du consentement. Puis lui, est quand même une pierre angulaire. J'aurais peut-être dû le parler avec le RGPD parce qu'il vient comme asseoir beaucoup d'éléments dans lesquels on doit faire parce qu'il doit être explicite. Puis il y a des certains nombres de paramètres à maintenir puis qui est très important à tenir en compte.
Effectivement, en ce qui concerne la diffusion des données, on a des cas assez gravissimes. En France, on a eu le cas Mila en 2020, une jeune femme qui a simplement donné un avis sur l'islam et des données personnelles ont été diffusées par des personnes. Cette jeune fille a été obligée de déménager, elle a été menacée de mort, de viol, un tas d'autres saletés. Elle a dû être déscolarisée, bref, c'était un cauchemar pour elle. Et bien évidemment, elle n'avait pas donné son consentement à cette diffusion. La question du consentement, en termes de données personnelles, elle est fondamentale. C'est ce que vous retrouvez au quotidien, en fait, en visitant des sites Internet, pour la question des cookies, par exemple. Lorsque vous mettez « j'accepte les cookies », vous acceptez en vérité que vos données soient collectées, analysées, corrélées, conservées, revendues, etc. Mais pour ça, il faut cliquer justement sur… toutes ces informations qui sont rendues obligatoires d'ailleurs par le RGPD pour les informations qui concernent des personnes résidant dans l'Union européenne ou l'espace économique européen, puisque ce consentement doit faire l'objet en vérité d'un acte qui est clair, positif. Donc, ça veut dire que les cases « j'accepte » ne doivent pas être cochées, pré-cochées. Il faut faire la démarche soi-même de dire « j'accepte que mes données soient traitées, utilisées, etc. » selon la liste que celui qui va les utiliser en fait. Et la particularité du consentement, du traitement des données, c'est qu'un consentement peut être retiré à tout moment et sans justification. Ce qui n'est pas le cas de la suppression des données dans le cadre de contrats ou autres bases légales. Lorsque des données sont traitées sur la base du consentement, le consentement peut être retiré à tout instant et de manière très simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à produire l'intégralité de son livret de famille que ce soit le cas. Ce doit être facile, en trois clics, en fait. Comme pour tout exercice de droit, en théorie, bien sûr, acté par le RGPD.
Très, très pertinent, puis c'est justement d'en tenir compte, parce que justement, ils peuvent continuer, la possession peut continuer, mais c'est l'utilisation qui est stoppée par le consentement. Puis d'ailleurs, il faut que ce soit bien maîtrisé, puis bien par les citoyens, de la nature de leur choix par rapport à ça. Puis que, dans le fond, qu'est-ce qu'ils acceptent, entre autres, pour les cookies, là? Mais ça, c'est en tout cas, les cookies en soi sont un débat. On va conclure sur, puis c'est un peu plus glauque, mais un peu sur la mort numérique. Sur le fait que les systèmes maintenant, faut prévoir ce passage de l'autre côté. Donc, puis il faut le prévoir aussi numériquement. Comment on fait ça? Puis qu'est-ce qu'on doit tenir en compte de ces éléments-là, justement, dans un cadre légal?
Lorsque Meta était Facebook, ils avaient prédit qu'en 2070, il y aurait plus de comptes de personnes décédées que de personnes vivantes. C'est pour cela que la législation est venue aider un petit peu tout ceci pour permettre de prendre des dispositions en amont de son décès. La mort numérique, je vais le lier avec le fait donc de décéder et d'avoir encore ces données personnelles qui circulent sur le web. Il faut garder à l'esprit que le RGPD ne s'applique plus une fois qu'une personne est décédée. Ce qui veut dire qu'on se retrouvait dans une forme de vide juridique avec personne qui pouvait prendre la main sur nos données pour les supprimer, avec des entreprises qui se retrouvaient avec des données de personnes décédées sans savoir forcément quoi en faire. Donc, il a été acté que les personnes pouvaient, et je recommande en disant devaient, prendre des dispositions sur la question de leurs données avant leur décès. L'exemple de Meta aujourd'hui montre qu'on peut décider ce que l'on fait de son compte Facebook lorsque l'on est décédé. Est-ce qu'on autorise une personne ou plusieurs à prendre la main sur le compte pour qu'elles informent les amis du décès et le transformer en mur commémoratif, ou est-ce que le compte est définitivement supprimé ainsi que toutes les données qui vont avec?
Oui. Effectivement, pour que ça soit une décision volontaire. Puis c'est aussi un peu des aspects très intéressants qu'on voit dans l'aspect légal, c'est que le citoyen a beaucoup de responsabilités aussi, même il y a beaucoup de responsabilités qui ont été mises sur les entreprises, entre autres sur la protection de ces informations-là. Mais le citoyen aussi doit être un acteur très présent dans ces éléments-là, donc pour pas que Denis Blanc. Ça fait le tour de la question. On ne voulait pas tourner dans le volet très légal non plus, parce que c'est quand même un objectif de plus grand public. Je te remercie énormément. C'est toujours très intéressant d'aborder ces sujets-là avec toi, parce que justement, ça aide justement à vulgariser des choses, des concepts qui sont un peu plus complexes, puis de ramener dans la sphère publique justement ces éléments-là où les gens doivent être plus informés pour être capables de justement le mieux protéger leurs informations.
C'était avec plaisir. Je te remercie.